could.
Corps,
amour,
sexualité.
Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.
Bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes bien sur Calibre, l'émission de Libre Antenne sur Radio Kaléidoscope 97 FM.
Et ce soir, à la technique, c'est Sylvie et Marty. Et au micro, c'est Mel et Marina.
Donc voilà, Calibre, c'est une libre antenne sur les questions de corps, d'amour et de sexualité, comme le dit le jingle. Hein. Donc le principe, c'est que vous nous appelez pour nous parler de ces sujets-là. Et puis nous, en attendant, on vous raconte des trucs. Alors on peut aussi nous envoyer des mails à calibre-libre@poivron.org. Et justement, on en a reçu un il n'y a pas très longtemps.
Mais si vous voulez nous appeler, on peut vous donner le numéro de téléphone 04 76 09 09 09. Donc, que ce soit pour poser des questions ou pour discuter avec nous. Et justement, là, nous avons Abby au téléphone. Voilà, qu'on va prendre tout de suite à l'antenne.
Salut. Alors, je crois qu'Abby ne nous entend pas encore, mais elle discute avec Marty.
Et nous alors. Allô.
Bonsoir, Abby.
Allô. Bonsoir, bienvenue sur Calibre.
Bonsoir. C'est Marina ?
Ouais.
Ah bah, j'ai reconnu ta voix.
Ah bah, super. Et il y a aussi Mel.
D'accord. Bah, enchantée.
Enchantée. Alors, qu'est-ce qui t'amène ?
Alors en fait, j'ai deux questions. Bon, elles sont un peu rien à voir l'une avec l'autre. Mais donc la première, c'est comme aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de la femme, des femmes. Là, j'ai une question, sur question droit plutôt. C'est par rapport au fait que nous, tous les mois, pour les femmes biologiques, on a nos règles.
Ouais.
Et parfois, on est indisposé par la douleur et ça nous empêche même d'aller travailler. Et donc, en effet, le monde du travail n'est pas du tout adapté au cycle féminin.
C'est sûr.
Et je voulais savoir s'il existe des projets de loi ou même des accords d'entreprise qui appliqueraient une sorte de congé menstruel. Je ne sais pas si ce genre de projet existe, s'il y a des syndicalistes qui y ont pensé ou même des féministes qui aimeraient pouvoir imposer ce genre de choses dans les entreprises.
Moi, j'en ai jamais entendu parler.
Mais c'est une bonne idée. Peut-être faudrait en parler au syndicat.
Mais moi, je pense qu'en France, ça me semble vraiment peu probable que ça existe. Après, peut-être dans d'autres pays, je sais pas. Mais là, vraiment, c'est une colle de chez colle. Hein.
Ah ouais, là, tu nous... Mais moi, ça m'étonnerait vraiment que ça existe parce que tu sais, je trouve quand même que... Moi, de ce que j'entends des discriminations justement à l'embauche quand on est une femme, c'est justement, tous les préjugés sur le fait qu'une femme va être moins efficace au travail, entre les potentielles grossesses, ouais. Le fait que chaque mois, elle est indisposée. Tu vois, comme il y a un peu ces préjugés sexistes-là qui traînent dans les milieux pros et qui font qu'il y a des discriminations à l'embauche, ça m'étonnerait qu'on permette aux femmes de prendre un congé une fois par mois parce qu'elles sont indisposées.
Ouais.
Ça marche que pour la piscine quand on est au lycée, hein, moi, je crois.
Oui, c'est vrai.
Après, j'imagine qu'avec un médecin de confiance, peut-être que c'est possible de se faire poser des congés maladie les mois où c'est particulièrement difficile, mais... Mais après, j'imagine aussi que ça dépend de la sphère professionnelle et des milieux professionnels. Pour ce qui est des milieux, moi, que je connais assez peu, dans les entreprises où il y a un peu de la compétition entre les salariés et où c'est un peu dur, à mon avis, c'est plus difficile que peut-être dans des petites boîtes où c'est un peu sympa l'ambiance de travail, où peut-être c'est plus possible de s'en parler et tout. Je sais pas toi si tu bosses et dans quel contexte tu bosses.
Oui, je bosse et je suis même récemment, depuis peu, je suis déléguée du personnel et c'est vrai que du coup, les congés qui existent, je sais à peu près ce qui existe. Mais c'est vrai que du coup, je me demandais, ce serait trop bien qu'il puisse exister ce genre de choses pour les femmes. Mais qu'en effet, Déjà, comme il y a des discriminations, comme vous avez expliqué, là.
Ouais.
C'est vrai que de proposer ce genre de projet, ce serait encore plus discriminant pour nous, alors que bon, il y a quand même des choses qui sont faites au niveau de la loi pour l'égalité hommes-femmes. Mais en effet, ça reste au niveau de la loi, quoi, et dans les entreprises, c'est un peu difficile de faire appliquer ça, quoi.
Bah ouais, encore un des combats à mener déjà dans le droit du travail de toute façon et sur le droit des femmes aussi encore énormément. Donc
Toi dans ton boulot, tu observes des discriminations et des différences de traitement entre les hommes et les femmes?
Un peu, oui, quand même. Enfin, c'est surtout au niveau hiérarchique, en fait. Il y a des patrons qui se permettent de faire des remarques, mais après, voilà, c'est pas pour autant qu'ils empêchent les femmes d'aller de prendre leur congé maternité ou quoi, mais c'est vrai qu'il y a des remarques qui sont toujours très mal venues, quoi. Mais oui, après, il y a la loi, donc ils sont obligés de s'y soumettre.
Oui.
Mais voilà.
Et donc, je ne sais pas si on a apporté un peu des éléments de réponse à la première question. C'est vrai qu'on n'avait rien de précis à dire, mais...
Non, mais je m'enseignerai de mon côté, parce que moi, de mon côté, ça m'intéresserait, ce genre de choses.
Et puis, si y a des auditeurs, des auditrices qui ont eu vent de ce genre d'initiative ici ou ailleurs, n'hésitez pas aussi à nous appeler au 04 76 09 09 09. Mais pour ça, il faut attendre qu'Abby ait raccroché, pas tout de suite, hein, parce qu'on a encore des choses à se dire, parce que nous n'avons qu'une seule ligne, donc ne soyez pas trop pressés si vous avez la réponse.
Voilà.
Et donc, ta deuxième question, Abby?
Alors, l'autre question, elle est d'ordre vachement plus personnel. Je vis avec un homme depuis quelques années. Mm-hmm. J'ai du mal durant nos rapports sexuels d'ordre amoureux, j'ai du mal à me libérer en fait de mes craintes et à me laisser aller, quoi. J'ai tendance à considérer la sexualité uniquement pour comme un jeu, en fait, et pas comme comme une façon d'aller plus loin dans mes émotions, dans la libération de mes émotions, quoi.
T'as dit que tu considérais la sexualité comme un jeu plus que comme un moyen d'aller plus loin dans tes émotions, c'est ça que t'as dit?
Oui, voilà, c'est ça, de lâcher prise, en fait. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais...
Bah, c'est déjà hyper chouette de prendre ça comme un jeu. Hein. Il y en a qui prennent ça comme des obligations. Et moi, je trouve que c'est déjà positif. Après, moi, j'entends bien ce truc de lâcher prise qu'on attend aussi dans la sexualité, qu'on n'arrive pas toujours à trouver, quoi.
Et tu ne parles pas de plaisir. Qu'en est-il de ton plaisir, du plaisir que tu prends pendant ces moments-là?
Justement, je prends... en fait, je prends un certain plaisir, mais je suis consciente que je pourrais en prendre vachement plus si je me lâchais aussi.
Ça me donne envie de te poser la question de la masturbation. Est-ce que quand tu es toute seule, tu... Bon, c'est très intime, tu as le droit de ne pas vouloir répondre, mais, mais je me demande si tu as des éléments de comparaison. Tu dis que tu es sûre que tu pourrais prendre plus de plaisir.
Je pense que c'est surtout... Enfin, parce que physiquement, oui, j'en prends. Enfin,
d'accord.
Enfin, après, c'est un peu bizarre de faire la différence entre physiquement et émotionnellement, mais... physiquement, il n'y a pas de souci. Question masturbation, parfois je préfère me masturber plutôt que d'avoir des rapports sexuels à deux, parce que c'est plus rapide. Hein,
c'est plus efficace.
mais du coup, c'est vrai que, après, je pense que c'est aussi une question d'histoire personnelle sur le fait de se lâcher, de lâcher prise, de plus avoir peur, de se libérer, quoi, ou enfin. Alors, c'est vrai que j'aime pas trop le mot se donner, mais parfois, peut-être pas forcément se donner à l'autre, mais juste se confronter soi-même à ses propres craintes, des choses comme ça. Mais c'est vrai que du coup, sexuellement, quand on est à deux, c'est un peu laborieux, quoi.
Et ça, vous en discutez entre vous?
Ouais. Ouais, on en discute un peu, mais c'est vrai que on n'en discute pas tout le temps qu'on a des rapports. C'est vrai que ça vient souvent lorsque on a eu plusieurs fois des rapports et que ça s'est pas, enfin ça s'est bien passé, mais qu'au final peut-être que, enfin oui, en fait j'en attendais plus que juste un jeu et
toi finalement ça te fait quand même, ça te crée pas mal de frustration.
Oui, ouais.
Et donc, si je comprends bien, c'est pas tant sur le plan du plaisir physique que de toi, comment tu as l'impression que tu te laisses pas aller, que est-ce que c'est un rapport avec un manque de confiance, est-ce que c'est
je pense que ça doit être ça, ouais. Je pense que ça doit être ça, ça doit être lié à un manque de confiance en l'autre, en fait.
Parce que je ne sais pas si tu as déjà eu d'autres partenaires, est-ce que ça se passait la même chose avec les autres partenaires ?
Pas vraiment, parce que en fait les autres partenaires généralement c'est je m'implique pas vraiment amoureusement quoi, enfin c'est plus des potes et on se voit même de temps en temps très très rarement, mais il y a plus un engagement avec le compagnon avec qui je suis là. Et c'est vrai que je pense que c'est aussi un travail sur moi qu'il faut que je fasse pour arriver à avoir confiance en lui quoi, mais
Au début tu disais j'arrive pas à me libérer de mes craintes. Est-ce que tu arrives à les identifier, ces craintes, ou est-ce que tu vois, où c'est un truc un peu diffus ou est-ce que tu arrives à voir à dire il y a des trucs qui te font peur quoi?
Non, c'est vrai que c'est plutôt quelque chose que j'arrive pas trop à cerner. J'essaie de me souvenir des moments où, parce que justement c'est des moments où à la fois j'ai envie de me lâcher et à la fois je me défile, j'évite de parler vraiment de ce qui me frustre, j'essaie de tourner ça en dérision, je vais pas avoir les choses en face quoi. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est très douloureux et que c'est difficile.
Mais c'est vrai aussi que c'est pas simple de parler de ce qu'on vit sexuellement avec nos partenaires, hein, même quand il y a de la confiance, même quand par ailleurs tout va bien, c'est pas forcément évident, donc je peux comprendre que ce soit pas facile, et d'utiliser l'humour, des fois on peut aussi penser que ça aidera. Mais est-ce que vous avez déjà essayé des petits jeux ? Je sais pas, j'ai pas d'exemple de jeu, moi, mais je me dis juste des choses qui font que, à un moment donné, comment on lâche prise dans la vie. Et par exemple, quand on joue, des fois, on se laisse entraîner par le jeu, tu vois, on est plus, on est peut-être moins dans le contrôle et plus dans la réaction spontanée. J'essaye de m'imaginer, tu vois, ce truc de. Moi, ce qui me parle dans ce que tu me dis, c'est comme un truc de contrôler tout ce qui se passe. Alors comment lâcher ce truc-là de contrôle ? Est-ce que, je sais pas si ça te parle, cette idée du jeu ?
Bah oui, ouais carrément. C'est vrai que j'essaye un peu de. Moi j'ai une amie qui est juste là. Elle m'a dit essayer de faire des jeux de rôle. Et c'est vrai que le fait peut-être d'imaginer d'être quelqu'un d'autre ou de faire des jeux de rôle quoi, et ça peut. Des jeux de rôle sexuels, ça peut être un moyen en effet de lâcher prise et puis de dire finalement indirectement ce que j'ai dans la tête. Oui, c'est vrai.
En tout cas, moi j'ai l'impression que ce truc de lâcher prise, si on le cherche à tout prix, en se mettant la pression, en voulant absolument lâcher prise, c'est là où on a des difficultés à le trouver parce que, tu vois, on se fout la pression et là, il faut que je lâche prise. Allez, il faut que j'y arrive.
C'est comme quand on n'arrive pas à dormir et qu'on dit bon là, il faut que je dorme. Ça ne marche pas trop.
Du coup, effectivement, détourner le truc, c'est peut-être une piste intéressante.
Ouais.
Bah, ça vaut le coup d'essayer, en tout cas.
Ouais, ouais, carrément. Bah, écoutez, j'essaierai et puis je vous dirai.
Bah, écoute, au plaisir d'avoir des nouvelles alors de comment ça avance pour toi.
Hein. Bah, merci.
Et bah, à la prochaine, alors.
À la prochaine.
D'accord, très bien. Bah, bonne soirée à vous, alors. Merci beaucoup.
Merci d'avoir appelé.
Salut.
Au revoir.
Ben super, on écoute un petit morceau pour faire une petite pause.
Tout à fait, on va s'écouter un morceau de Perte Noire qui s'appelle Dans la rue.
Avoir une maladie, de ne pas aimer me faire fourrer. T'arrêtes pas à ce que je ressens. Toi, c'est la tête que tu perds.
Vous êtes à l'écoute de Calibre, l'émission de Libre Antenne sur les questions d'amour, de relations, de sexualité, de corps. Libre Antenne, vous pouvez nous appeler au 04 76 09 09 09.
Et bon, on a eu un appel avec une question quiz à laquelle on n'a pas su répondre, nous.
Alors nous, du coup, on répond. Nous aussi, on a une question quiz.
Alors, elle a déjà été posée à l'antenne il y a quelques semaines, il me semble.
Ouais, c'était une émission où on parlait un peu d'homosexualité, notamment de la culture PD. Et alors, personne n'avait appelé pour répondre et on avait oublié de nous donner la réponse.
Donc, on la repose ce coup-ci et puis on donnera la réponse en fin d'émission si vraiment personne nous a appelé pour nous répondre.
Alors, écoutez bien. En quelle année l'homosexualité a-t-elle été retirée de la liste des maladies mentales de l'OMS ? En quelle année, donc, voilà, je vais répéter.
On dirait
un vrai truc à la télé, non?
Oui.
Je me suis beaucoup entraînée. Bon, bref, en quelle année? Parce que, et c'est assez intéressant parce qu'on se rend compte que, allez, je donne un indice, que c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Hein.
Bah, si on pose la question, c'est que...
C'est qu'il y a un truc quand même qui nous intéresse dans la réponse. Donc, n'hésitez pas à nous appeler, on trouvera bien un petit truc à vous offrir. Pour vous récompenser de nous avoir donné la bonne réponse. Et sinon, on voulait aussi commencer un peu cette émission. On a reçu un texte sur notre boîte Calibre qui réagissait à l'invitation pour la dernière émission thématique, non, l'avant-dernière d'ailleurs, sur les modifications corporelles, tatouages... Et tout ça, et donc une auditrice qui nous parle, elle, de branding. Alors le branding, c'est se faire des marques volontaires sur la peau par brûlure. Et on trouve, voilà, on a envie de vous lire son texte, comme en général on le fait avec les textes qu'on reçoit sur notre boîte. Et on le trouve notamment intéressant parce que cette personne, elle parle de cette pratique un peu différemment de ce qu'on a l'habitude d'en entendre parler, souvent d'un point de vue extérieur, hein, comme de la part de quelque chose qui est fait par des personnes qui sont forcément en souffrance, qui sont forcément dans des trucs un peu délirants comme ça. Et là, bon, bah, ce qui est intéressant, c'est que c'est une recherche, j'ai envie de dire, je sais pas si c'est serein, mais en tout cas une recherche quoi, clairvoyante de, sur les sensations et sur les modifications corporelles que produisent le branding. Alors on écoute ce texte.
Pas de tatouage, pas de piercing, mais du branding, oui. Ce n'est pas un truc que je pratique souvent, mais cela m'arrive de le faire, seul. Souvent suite à une situation très particulière, afin que cela reste exceptionnel. Même si c'est pas pour la déco à la base. J'aime voir évoluer ces marques et je choisis la forme. Jusqu'ici, personne n'a vu ce que je me suis fait. Pourtant, je ne cache rien. Dans le contexte où je le vais, où je le fais, c'est pour me rappeler de certaines choses. Comme un nœud qu'on a fait à son mouchoir ou comme juré craché. Il y a un effet psychomagique pour ma part. Le but est de me tenir à ce que j'ai défini en le faisant. Très personnel, très symbolique, très épuisant. La douleur est là, avant de le faire, j'appréhende déjà. Je fais des marques en utilisant une lame de couteau chauffée. Le premier trait se fait plus facilement que le deuxième. Le deuxième demande plus de courage. Et des fois, ça foire. Je suis obligée d'appliquer plusieurs fois la lame au même endroit. Ça devient une douleur connue et assumée. C'est une épreuve. Et bien sûr, plus il y a douleur, plus il y a sens. J'évite de désinfecter, surtout au début, pour avoir encore plus mal pendant des jours. À chaque retour de douleur, je me rappelle pourquoi j'ai fait cela afin de ne pas oublier. Ma limite pour le moment a été de ne pas en faire deux à la fois, attendre que la marque disparaisse pour en refaire une à un autre endroit. Ma peau n'est pas un terrain expérimental, ni piercing, ni tatouage, se marquer au fer n'est pas un jeu. J'ai commencé à faire cela le 26 mars 2009, sans savoir que c'était une pratique BDSM. C'était une envie très réfléchie, un acte calculé, une solution qui m'a réellement libérée. Voilà un peu mon expérience. En fait, quand j'ai lu l'intitulé de votre mail, « Modification corporelle », j'ai pensé que cela ne me concernait pas. J'aime pas le maquillage, la déco, les trucs superficiels et esthétiques. Et si tu cites le branding, eh oui, je suis dans ce registre sans le vouloir.
Merci pour ce témoignage. On aime beaucoup à Calibre recevoir ce genre de contribution. Donc vraiment, on vous invite, si c'est pas possible pour vous, d'appeler, à nous écrire. Et voilà, ça nous sert toujours. Et je pense que ça sert aussi aux auditeurs et auditrices d'entendre des témoignages rares. Enfin, rares. En tout cas, pour moi, c'est rare d'entendre ce genre de témoignage. Je suis assez touchée de l'entendre. On s'écoute une nouvelle petite musique. Mmh. Une chanson qui s'appelle Au revoir et qui est donc un remix d'un groupe qui s'appelle La Peau et les Os, et c'est remixé par The Revengers, un groupe local.
êtes toujours à l'écoute de Calibre sur Radio Kaléidoscope. Et notre question quiz du soir, c'est, je vais essayer de le faire comme Marina tout à l'heure, en quelle année a été, c'était quoi déjà là ?
L'homosexualité a-t-elle été enlevée de la liste des maladies mentales de l'OMS ? OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé.
Vous pouvez répondre à cette question en nous appelant au 04 76 09 09 09.
Et gagner un de nos superbes cadeaux.
Oui, on a qu'à dire ce que c'est.
Oui.
Ça serait une brochure sur le cunnilingus. En fait, ce n'est même pas une brochure, c'est un livret poster sur le cunnilingus qui a été fabriqué, dessiné à Grenoble par les filles qui habitent ici. Enfin, bref, c'est un objet assez sympa.
Ouais.
Production locale.
Voilà, et tout à fait dans les thèmes Calibre, puisque ça nous semble toujours important de parler de sexualité, de parler de pratique, et d'échanger là-dessus. Et ce livret, c'est aussi un support de communication. Moi, j'ai l'impression que pas mal de personnes l'ont posé à côté de leur lit, comme un truc, tu sais, si tu recevais un amant ou une amante, de faire « Ah ouais, toi, t'as ça !» Hop, ça ferait parler de sexe. Alors, on a un nouvel appel. C'est notre ancien collègue Lunar qui nous appelle. Voilà, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent depuis longtemps. Donc Lunar qui était dans l'équipe l'année dernière.
Et qu'on n'entend plus à l'antenne, mais qui reste fidèle auditeur, j'espère.
Oui, pas très loin.
Bonsoir Lunar.
Bonsoir.
Salut, salut.
Alors tu nous as envoyé un texte dont tu avais envie de nous parler ce soir.
Oui.
Donc,
Alors, c'est un texte que j'ai trouvé, enfin, plutôt que j'ai retrouvé, parce qu'on me l'avait déjà indiqué, puis voilà, alors il est revenu plusieurs fois, je m'y suis intéressé vraiment, écrite par une blogueuse féministe, pro-sexe, qui s'intéresse au BDSM et des choses comme ça, qui s'appelle Howie, et qui tient un blog qui s'appelle Pervocracy.
Okay.
Un peu voilà comme oui, démocratie pervers, un truc comme ça je crois. Et en tout cas, Holly, elle a donc c'est un texte qui donc on a pris le temps de traduire avec une pote qui nous a assez parlé.
Parce que du coup son blog est en anglais, c'est
oui,
ça?
C'est une américaine.
C'est une américaine.
Mais je pensais que comme elle s'appelait Holly, tu vois, et que j'essayais de mettre l'accent même si ça me rend ridicule.
C'est bien d'avoir essayé.
Oui, c'est ça. Et donc c'est un billet qu'elle a écrit il y a quelques semaines où elle alors qui en anglais s'appelle donc Rescripting Sex. Et qu'on a traduit en français par rescénariser le sexe.
Okay.
Et voilà qui me parlait pas mal. Alors j'avais envie de vous lire des bouts puis qu'on en discute quoi.
Bah ouais, carrément, c'est intéressant. Vas-y,
on t'écoute.
En gros, son point de départ, c'est de dire qu'elle a dans la vie, on a plein de petits scénarios quoi, des mini scripts. Ce truc où hop, on rentre dans un magasin, alors on dit bonjour et puis après on s'en va, alors on dit passer une bonne journée. Et puis que voilà, enfin plein de petits rituels comme ça, des scénarios. Et elle dit mais en fait il y en a aussi pour le sexe.
Ouais.
Et alors le premier scénario qu'elle fait un peu comme si elle devait faire je sais pas un petit film ou une pièce de théâtre, elle l'appelle le consentement à pile ou face. Et donc je vous le dis et ça donne le partenaire actif, généralement le mec, et le partenaire réceptif passif, généralement la meuf. Sont toutes les deux. Ils discutent, boivent, vous regardent un film. Le partenaire actif sent, ou imagine, qu'il y a du désir ou de l'amour dans l'air. Le partenaire actif se rapproche progressivement du partenaire passif et fait quelques insinuations sexuelles. Tout d'un coup, A se lance et embrasse R. Si elle ne s'y oppose pas, A emmène R dans un lit ou sur un canapé et l'y allonge. A embrasse de nouveau R et la tripote. Si elle ne s'y oppose pas, A met ensuite une capote et R se doit d'écarter les jambes et tout. Pénétration. Et elle l'appelle, elle dit, alors elle est claire, hein, elle dit ce qu'elle décrit là dans le scénario, c'est pas un viol. Elle dit, elle appelle ça le consentement à pile ou face parce que à aucun moment il y a un truc où qui est clair sur. Sur les intents, enfin sur les envies des deux personnes.
Il n'y a pas trop de communication, quoi.
Ben, il y a une espèce, il y a une communication dans la forme de attente quelque chose et voit si jamais R là s'oppose ou pas. Mais ça devient complètement en fait une espèce de jeu quoi. Enfin c'est un truc où à un moment donné le A il est ah ok jusqu'où elle aurait envie d'aller.
Ouais.
Et bon, c'est un peu pauvre, hein, comme je trouve, comme émotion, ou en tout cas comme désir, de juste désirer savoir où l'autre a envie d'aller, quoi. Et pour la personne qui est en face de ça, c'est aussi un truc de ok, à un moment donné, est-ce que je le repousse, comment je le repousse, et est-ce que si jamais je dis non, il va écouter, quoi.
En gros, c'est un peu, il y a un espèce de consentement implicite, quoi. Si il y a personne qui dit rien, c'est que c'est consenti, quoi. C'est un peu le principe qui ne dit mot consent.
Oui, bah avec ce truc où c'est, il y a un peu, enfin presque, ça ressemble à un jeu de hasard, quoi. Enfin, quelque part, vu qu'à un moment donné, il y a aucun moment où c'est un peu formulé clairement.
Ce que les personnes ont envie ou pas envie, on tente et puis voilà quoi.
Ouais.
Mais moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas que du hasard là-dedans. J'ai l'impression que, parce que tu parles de scénario, il y a aussi ce truc que en fait ça se passe comme ça quoi. Il y a un peu ce script de base là où en fait c'est censé se passer comme ça. Donc il y a un peu les différentes étapes et en fait, avec effectivement la pénétration, le coït et l'éjaculation en fin de course, quoi. Avec au début, je mets ma main sur ta cuisse et puis après, c'est un truc assez linéaire aussi, j'ai l'impression.
Ouais. Bah, moi, ça me rappelait ce truc-là de mais parce que j'y repensais il y a pas longtemps. Et c'est le regard du garçon prêt à embrasser. Et je sais pas, ça, c'est un truc qui vous parle, mais en tout cas, dans les films, ça, souvent on le voit, quoi. T'as un moment donné, hop, la discussion s'arrête, et puis là t'as le regard du gars qui change, et hop, il s'approche comme ça pour embrasser la fille, quoi.
Je crois qu'en technique on fait le garçon qui est prêt à embrasser.
C'était assez comique.
Vraiment, ce regard et tout, et moi je sais que je l'ai eu en fait, hein, clairement dans.
Bon, toi, en tant que gars, tu as eu ce regard de celui qui va embrasser.
Bah oui, parce que c'est ça le scénario, quoi. C'est ça le code qu'on m'a appris. C'est on m'a appris, que j'ai absorbé, j'ai envie de dire.
Que t'as vu dans les films, quoi.
Ouais.
Mais alors, du coup, ce scénario, il paraît bien ennuyeux au bout d'un moment, c'est ça. Et en plus, problématique, parce que du coup, il permet pas vraiment d'être sûr que la partenaire est vraiment consentante.
Mais c'est fou, c'est qu'il y a des gens en plus qui ont des relations assez longues et où ça se passe toujours comme ça, en fait.
Et alors, elle propose autre chose, blogueuse
En tout cas, en général, après, les gens, tu leur dis, ok, on n'aurait qu'à pas. On n'aurait qu'à. Là, les gens, ils communiquent pas. Hop. Et puis, du coup, ils s'imaginent un truc qui ressemble assez à ce qu'elle décrit. C'est un scénario hypothétique. Hein. Elle dit, l'accord des robots avocats pour 1, entre parenthèses, 1 en chiffres, acte de pénétration. Le partenaire actif et le partenaire passif sont tous les deux. Ils discutent, boivent ou regardent un film. Le partenaire actif sent ou imagine qu'il y a du désir ou de l'amour dans l'air. Jusque-là, c'est pareil. A coupe la conversation et demande à R, est-ce que je peux t'embrasser? Si elle dit oui, il s'embrasse. Mais il fait bien attention à ne mettre ses mains qu'à les endroits qu'il est autorisé à toucher. Puis A cesse tout contact physique, reste poliment à distance respectable et demande à R, est-ce que je peux te toucher ton sein gauche? Est-ce que je peux aussi toucher ton sein droit? Si elle dit oui, il lui touche les seins. Après quelques essais silencieux, de caresses à bout de bras, il s'éloigne de nouveau, se ressaisit et demande « Est-ce que tu veux faire du sexe ?» Si R répond affirmativement, il précise « Avec moi ?» Voilà, alors...
Ça, c'est un peu la caricature à l'inverse, quoi.
Bah, en tout cas, mais ça m'est vraiment arrivé de discuter de ce truc de « Ah, comment est-ce qu'on... » Enfin, ça veut dire quoi, discuter ou en tout cas essayer de verbaliser ses désirs, et les gens ensuite ils ont ça dans la tête, quoi.
Moi je suis désolée, j'ai pas compris c'était quoi l'histoire des robots.
Bah dans ce truc où
avocat.
En fait, dans ce truc où c'est extrêmement, en tout cas tel qu'elle le raconte là, le type il lui dit est-ce que je peux, il fait bien gaffe à toucher rien d'autre avant d'avoir demandé et d'avoir une réponse affirmative.
Du coup, c'est ça l'idée un peu d'être un peu robotique.
Bah en tout cas, ouais.
Et avocat de la bonne façon de faire, ce serait ça l'idée.
Bah avocat, c'est-à-dire légaliste. Je pense elle Holly là, elle écrit aussi de son point de vue. D'États-Uniennes où il y a ça quand même très fort dans ce truc très
ah oui, sinon elle risque un procès.
Ouais, c'est ça.
D'accord.
Comme ça. Et mais elle, bon, alors je veux dire, ce scénario-là, il est pas spécialement peut-être il est un peu consensuel, mais en fait il est aussi triste que, enfin, en tout cas il a plus de chances d'être consensuel, mais il est aussi triste que le premier si on y regarde, parce que
toi tu trouves qu'il est triste, quoi. Toi, ça te fait pas envie.
Bah, je veux dire, c'est qu'en fait, il y a toujours un partenaire actif, et il y a toujours une personne qui est purement passive et qui dit juste ah oui ou qui dit juste non.
Oui.
Mais en fait, il y a pas spécialement de communication là-dedans. En tout cas, elle à un moment donné, c'est pas parce qu'à un moment donné, on a envie d'avoir des scénarios où on s'écoute, on se donne des envies, que c'est forcément un truc où il faut systématiquement.
Toi, tu trouves que ça manque un peu d'énergie, quoi, un peu de peps ou de, je sais pas, d'un truc qui serait excitant.
Mais c'est pas seulement d'énergie, c'est aussi de réciprocité.
Oui.
Ouais.
D'un côté, et de l'autre côté, il y a un truc où c'est pas parce qu'on essaye de formuler des désirs qu'on peut pas non plus quand même essayer de percevoir un peu des choses ou d'être à l'écoute. Des mouvements ou des regards ou des sourires de l'autre, quoi.
Donc elle propose et toi tu adhères à une position un peu plus nuancée où en même temps on communique, on verbalise certaines choses et en même temps on va pas tout l'exemple du sein gauche et du sein droit, c'est un peu ça, c'est un peu caricatural dans le sens où on va pas demander si on peut caresser
telle partie
du corps à ce point-là, quoi.
Et alors, c'est quoi la troisième proposition?
Bah, en tout cas, avant ça, c'est ce truc où, à un moment donné, je dis, il y a des trucs qu'on peut faire passer éventuellement par le regard ou pas, mais après, il y a des choses que c'est sûr qu'on peut pas, qu'on est obligé de verbaliser, quoi. Elle, moi, j'adore, elle donne comme exemple que, en fait, c'est pas possible de faire passer le, enfin, ce truc, hop, à un moment donné, si t'as des désirs comme, j'ai envie, l'exemple qu'elle donne, j'ai envie de te tirer doucement les cheveux pendant qu'on baise et te chuchoter des cochonneries à l'oreille. Voilà, ce désir-là, d'essayer de le faire passer avec des haussements de sourcils, des regards, des sourires ou je sais quoi, c'est un peu comme si c'était faire passer le concept du plan d'immanence de Deleuze en dessinant au Pictionary, même avec les pieds.
Oui, il y a des trucs, c'est important de pouvoir les dire avec des mots, sinon il y a des chances qu'ils ne soient pas compris, quoi.
Ben, et puis franchement, le moment où tu formules pas un peu explicitement des désirs comme ça, et puis tu... Enfin, je veux dire, le...
Oui, si la personne, elle se retrouve à se faire tirer les cheveux alors qu'on lui a pas dit que c'était son désir, enfin... Ouais. Peut-être qu'elle va mal le prendre, quoi, aussi.
Ouais, et puis là, franchement, c'est des moments un peu... C'est sûr que ça va être pas des moments chouettes à vivre, quoi. Moi, je crois pas du tout à la télépathie sexuelle, par exemple.
Non, après, j'imagine que quand on a, par exemple, des partenaires réguliers et que, du coup, des fois, on tente des choses sans avoir vérifié avant, en tout cas, ce qu'on peut toujours rappeler, c'est que c'est bien de vérifier après.
Ah oui.
Si on n'a pas vérifié avant, de dire, au fait, le check d'après le sexe, de qu'est-ce que tu as pensé de ce moment-là où il s'est passé ça, ça te plaît ou pas, c'est quelque chose d'intéressant. Il y a le pré-scénario et puis des fois, il y a le retour critique sur le scénario qui vient de se passer.
Ouais.
Je me dis. Mais alors, du coup, après, ce troisième scénario qu'elle propose dans son texte.
C'est vraiment un exemple parce qu'en fait, des scénarios chouettes, il y en a plein et c'est aux gens de trouver aussi leur équilibre, mais ça donne. Les partenaires A et B sont tous les deux. A sent ou imagine qu'il y a du désir ou de l'amour dans l'air. A dit à B, t'es vraiment trop jolie, tu sais, j'ai très envie de t'embrasser. B répond en se penchant pour l'embrasser passionnément. B met un doigt sur le premier bouton du haut de A et demande, je peux? Avec un air coquin. A acquiesce et B ouvre sa chemise, touche et embrasse son torse. Et si on allait dans la chambre, demande-t-elle en levant les yeux vers lui, les lèvres posées sur sa peau, juste au-dessus de son jean. A répond en lui prenant la main et en la guidant jusqu'à la chambre. B s'assied sur le lit et commence à se déshabiller. Elle attire A avec elle dans le lit. Est-ce que tu veux faire du sexe ? Demande A. Oh oui, dit B. Elle recommence à embrasser A. Elle pose les mains sur sa baguette, mais hésitante, elle cherche son regard avant d'aller plus loin. Attends, dit A. Il faut que tu saches que je n'aime pas vraiment qu'on me touche les couilles. Ok, dit B, mais je peux te toucher. Je peux jouer avec ta bite ? S'il te plaît, répond A. Et B glisse la main dans son pantalon. Sa réponse se transforme alors en un gémissement lorsqu'elle en serre sa bite et commence à le branler.
Donc là, c'est un scénario parmi d'autres et en fait, il y aurait autant de scénarios possibles qu'il y a de partenaires, quoi. Enfin, de binômes ou de trinômes.
Mais effectivement, comment il est écrit, ce scénario, il est tout de suite plus érotique que les deux premiers.
Oui, bon.
Mais aussi parce qu'elle va plus loin, elle triche un peu quand même.
Oui, elle triche un peu. Mais moi, ce que j'aime, c'est dedans, et ce qu'elle explique aussi après, c'est que finalement, voilà, je veux dire, branler une bite, c'est un moment, c'est ou d'autres caresses, hein, je veux dire, mais c'est quand même frotter de la peau avec d'autres peaux, et c'est quand même, quand on y pense, très mécanique et pas forcément, ça peut être chouette, mais ce qui rend vraiment ça génial, c'est aussi de sentir le désir de l'autre, et à un moment donné, le « Ah, est-ce que t'as envie que je te fasse ça ?» et la personne qui répond « S'il te plaît », comme ça, et ce désir qui est palpable. Et c'est ça qui rend, je trouve, vraiment les choses très excitantes.
Donc là, la proposition, c'est que l'excitation passe aussi par l'expression de cette excitation. Et que ce soit pas tant, si je comprends bien, le fait de mécaniquement un peu vérifier que tout ce qu'on va faire, c'est bien, ou que tout ce qu'on va faire, c'est OK, mais plutôt que d'injecter son excitation et son envie de faire des choses, tout en vérifiant que c'est OK. C'est ça ?
Tu le résumes très très bien, je trouve.
Et que même le désir, il passe par le fait que de savoir que ce qu'on procure à l'autre, c'est consenti. Enfin, qu'il y a aussi un truc de plus, quoi.
D'envie. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que dans ce scénario-là, voilà, il y a une partie des choses qu'elle fait passer pas forcément par des mots, quoi. C'est aussi, c'est à un moment donné. Typiquement, avant d'enlever une fringue, de faire une pause sur un bouton et de regarder l'autre et de voir ce qui se passe, ou des choses comme ça, ça fonctionne aussi.
Qu'il y a une espèce de communication qui est plus subtile que « est-ce que je peux te déboutonner ton jean ?»
Oui.
Aussi, il y a une forme de communication qui est aussi propre à chaque binôme, hein, enfin, ou trinôme, ou quadrinôme, comme je dis.
Ou quidibone.
Bref.
Après, plus on est plein, et plus il faut faire gaffe. Hein. Enfin, je dirais, plus c'est bien peut-être de verbaliser les choses, parce que je trouve que c'est facile d'avoir son attention sur une autre personne. Dès qu'il y en a plus, ça commence à faire...
Ça multiplie les facteurs les vecteurs de communication, quoi.
Oui.
D'accord, et donc pour retrouver les textes de cette blogueuse, nous on mettra le lien vers son blog en anglais. Parce que du coup ces textes sont pas traduits en français à part par tes soins là pour le.
À part celui-là, ouais. C'est sur pervocracy.blogspot.com.
Très bien.
Mais la traduction, elle est pas trouvable sur internet ?
Oui, elle est aussi mise sur internet, je vous filerai le lien et puis.
Super.
Voilà.
Eh ben, je sais pas, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose ou
Non, j'avais envie de partager ça avec vous, et puis après, si d'autres auditeurs sont curieux d'en discuter...
Toujours avec plaisir, Calibre, c'est le lieu notamment pour parler de ces sujets-là.
Voilà.
Et pour partager ce qui nous intéresse à l'antenne, quoi.
Voilà.
Eh ben, très bien.
Eh ben, merci Lunard.
À la prochaine fois.
Salut.
Salut, à la prochaine. Alors, on va... Alors, tiens, c'est marrant parce que la chanson qui va passer pourrait aussi être dédicacée à Lunard et surtout dédicacée à Petite Fleur. Voilà, donc c'est une chanson qui s'appelle « You are my sunshine ». »
You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away.
Une chanson qui a fait danser tellement de personnes certains étés, et nos techniciennes notamment. Donc You Are My Sunshine, pour faire une petite transition sur Calibre, sur Radio Kaleidoscope 97 FM. Vous pouvez toujours nous appeler au 04 76 09 09 09, il reste un petit quart d'heure d'émission.
Et on était en train de parler de scénarios du sexe, enfin genre qu'est-ce qui se passe quand nous on fait du sexe. Mais il y a des fois aussi des scénarios pour nous exciter ou pour...
Des scénarios personnels entre nous et nous-mêmes.
Alors on a, Marina et moi, on a déjà parlé des fantasmes.
Oui, c'est vrai que c'est assez proche, mais alors...
Là, ce soir, on avait aussi envie de parler des supports, BD, films, tout ça,
qu'est-ce
bouquins...
Qu'on utilise
Ouais. Qu'est-ce qu'on utilise comme support matériel
pour se masturber. Est-ce que alors on n'est pas première chose de base,
pour s'exciter, on n'est pas obligé de se masturber. On peut aimer regarder ça sans passer à l'acte de masturbatoire.
Tout comme on peut avoir envie de se masturber sans avoir du tout besoin de ces supports, simplement des fois en se faisant ces scénarios dans sa tête. Ou simplement, des fois, sans scénario, parce que la masturbation peut être quelque chose de très mécanique et de très technique. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est quand on a envie ou besoin de support. Donc, et quels sont ces supports? Alors, en discutant un peu avant l'émission, on arrivait à en distinguer deux.
Deux catégories, quoi.
Ouais, deux grandes catégories de supports.
Les supports explicitement faits pour exciter, donc les supports pornographiques, on les appelle.
Alors, les films...
La littérature,
les magazines,
les BD aussi, les BD érotiques. Je crois pas qu'il y a des émissions de radio érotiques spécialement conçues, des émissions pornographiques.
Ah ouais, un projet à méditer. Et après, il y a tous les supports qui sont un peu les supports du hasard. Alors, plus ou moins du hasard, Mais alors, il y a ceux sur lesquels on tombe par hasard, on est en train de lire un bouquin, on est en train de feuilleter un livre d'images ou je sais pas quoi, et on va tomber sur des images ou sur des mots qui vont éveiller en nous des désirs et nous donner envie de nous masturber peut-être. Et alors ça, c'est un peu le hasard, mais des fois, il y a des supports qui sont un peu moins du hasard, on va rechercher, mais qui sont pas faits pour, on va détourner. Donc on pense notamment aux magazines, enfin au catalogue de vêtements de vente à
par correspondance.
C'est ça, merci.
La vente. Dont on ne citera pas le nom. Bon,
voilà,
on a pas
mais
besoin,
vous
mais
ces catalogues où il y a des filles en sous-vêtements, en soutien-gorge, en petites culottes, où il y a des hommes aussi d'ailleurs, et qui pour alors on a tendance à penser que c'est peut-être plus pour les ados, mais après tout, pourquoi serait-ce réservé aux ados, peuvent servir de support d'excitation, donc de voir ces corps nus. Alors on pourrait penser que peut-être, je me demande quand même si Internet n'a pas changé un peu cette donne-là, parce qu'on peut penser...
On n'a pas parlé d'Internet quand on parlait des supports, mais effectivement...
Oui, maintenant c'est vrai que sur Internet, on peut trouver hyper facilement des textes érotiques, hyper facilement...
Des images, des vidéos...
Voilà. Mais aussi, par exemple, des textes. Hein. On tape texte érotique, tac, on en a plein, on a le choix et tout. Et c'est vrai que, du coup, c'est peut-être plus facile. Moi, en tout cas, quand j'étais ado, il n'y avait pas Internet. Et j'ai l'impression qu'on parlait plus... Enfin, fallait un peu chercher, quoi. Fallait soit chercher dans la bibliothèque de ses parents si on ne trouvait pas un petit guide sur la sexualité avec des petites photos, ou alors dans les romans policiers...
Ou même dans certains romans où il se passait un truc et où on relisait la scène 10 fois.
C'est ça. Donc un peu cette recherche-là de support à des imaginaires sexuels, érotiques, et qui peuvent... on discutait un peu de ça. Ça nous intéresserait aussi de savoir si vous, qu'est-ce que vous en pensez, comment est-ce que vous dealez encore avec ça aujourd'hui. Parce qu'on se disait aussi que c'est vrai qu'il y a des supports qui... Oh, support, c'est un nom un peu neutre comme ça. Enfin, mais par exemple, tous ces trucs des bouquins, par exemple. Là, les bouquins, moi je pense notamment à ces espèces de policiers ou de bouquins de science-fiction à l'intérieur duquel sont intégrées des scènes érotiques plus ou moins pourraves, je trouve maintenant. Enfin, déjà à l'époque, je trouvais ça un peu pourrave. Maintenant, encore plus, en général, dans des schémas assez traditionnels, assez machos, assez sexistes. Hein. Et pourtant, des fois, c'est encore ça qui marche. Et c'est ça qui va marcher comme déclencheur de désir, de trucs d'auto-érotisme, alors que ça peut nous laisser un petit goût amer, après coup. Un espèce de petit goût de « Ok, super, ça marche, mais... »
Je pense que, mine de rien, c'est quand même une grosse partie des productions pornographiques, hein, parce qu'elles sont... pour la majorité, elles sont un peu dominées par des idées sexistes et hétéronormées aussi. Et que voilà, du coup, nous, en tant que meufs, en tout cas, parce que je pense que peut-être que vu que cette pornographie-là, elle est un peu construite plutôt pour des garçons, peut-être que nous, on ressent plus d'amertume en utilisant ces supports-là, mais je pense que des garçons pourraient aussi...
ressentir cette amertume de vouloir peut-être créer
autre chose.
Plus, notre camarade Luna décrivait justement cette envie de changer un peu de scénario. Et c'est vrai qu'on retrouve quand même souvent les mêmes scénarios de mecs très acteurs et de femmes. Et donc, c'est vrai qu'il existe d'autres, quelques alternatives.
On va en parler brièvement parce qu'on ne connaît pas vraiment, mais ça donne envie d'aller creuser. En tout cas, il y a des gens qui, devant ce constat-là, sont dit que, c'est des gens qui pensent que le porno, les productions pornographiques, en fait, c'est pas quelque chose de mal, parce qu'il y a aussi des gens qui pensent que, faut vraiment pas...
Oui, il faudrait que ça n'existe pas. Alors bon, ça, c'est un débat... on va pas le résumer en 2 minutes, mais c'est vrai qu'on peut aussi penser que c'est pas la pornographie en soi qui est un souci, c'est telle qu'elle est.
Et du coup, il y a des gens qui décident de changer un peu les codes, en tout cas de remettre en cause ces idées sexistes et hétéronormées, et du coup de produire, de réinventer la pornographie. Et du coup, ils appellent ça le post-porn. Voilà.
D'accord, donc le post-porno, donc un peu quelque chose qui viendrait après le porno pour faire mieux.
Voilà, pour faire réinventons le porno, quoi. Bon, voilà, on mettra sur le site peut-être des liens qui permettront d'aller creuser un peu plus. De toute façon, on n'a pas trop le temps d'en parler plus.
Non seulement ça, puis on se disait que Mel et moi, on n'était pas forcément très calés en post-porn et que du coup, on vous invitait aussi, vous, auditeurs ou auditrices, à nous appeler si peut-être une prochaine fois, parce que là, ce soir, c'est un peu serré. Pour témoigner peut-être de productions post-porn qui alimenteraient et renouvelleraient le stock de supports à l'imagination érotique.
Mais on avait quand même un... D'ailleurs, ce n'est pas vraiment du post-porn. Ou, en tout cas, ce ne se décrète pas comme tel. Mais on avait quand même envie de vous présenter une BD érotique. Une BD porno.
Support que moi, je dois avouer que j'ai trouvé quand même sympa et que je suis contente d'avoir découvert. Justement parce que... Alors, bien que cette BD puisse être critiquable à plusieurs aspects, puis on va en parler... pour le coup, ça ne me laisse pas un goût amer après qu'elle ait été efficace, puisque moi, je la trouve efficace. Ça s'appelle Small Favors.
Favors.
La BD pour les filles qui aiment les filles. Et c'est dessiné et créé par Colleen Coover.
Une américaine.
Voilà. Et donc, cette BD met en scène une héroïne qui va rencontrer... Une autre héroïne. Voilà, elles vont se découvrir un terrain commun de jeux sexuels très large et très
imaginatif,
voilà,
et très ludique.
Donc c'est une BD porno qui montre explicitement des images de sexe entre filles. Donc on les voit se lécher, se pénétrer avec des godes ceinture, s'embrasser, rouler des grosses pelles. Enfin voilà, ça montre explicitement des filles qui font du sexe. Ce qui est sympa, c'est qu'elles sont pas toujours que deux d'ailleurs, parce que bon, on vous décrit pas y a pas vraiment d'histoire, mais il y a
petit
prétexte.
Non, c'est des petites scénettes.
Elles se rencontrent quand même de plus en plus, elles s'aiment de mieux en mieux au fur et à mesure et tout, mais bon, elles se font aussi des petites parties à trois, voire à plus.
Voire à quatre, cinq, six.
Et c'est assez fun. C'est un des trucs qu'on trouvait chouette dans cette BD, c'est que le sexe y est montré comme vraiment un jeu, quelque chose dans lequel on s'amuse. Par lequel on s'amuse et qu'on prend du plaisir et qui... Oui, et qui n'est pas forcément, d'ailleurs, l'expression de l'amour, enfin, même si on sent qu'elle s'aime de mieux en mieux au fur et à mesure, mais c'est pas forcément très romantique, quoi. C'est plus du sexe pour du sexe.
Oui,
hein.
C'est ça, oui.
Oh, tiens, j'ai envie de baiser. Ah, bah oui, tiens, on n'a qu'à baiser.
Oui, puis même si les deux héroïnes, je sais pas si on fait la liaison ou pas, elles s'aiment, on s'aperçoit qu'elles tissent une relation affective et tout ça, mais ça les empêche pas de fantasmer sur la voisine et de décider de baiser avec elle. Donc il y a aussi un rapport à la sexualité qui est, en tout cas, qui déconnecte désir sexuel et affection, quoi. Et ça, moi, pour ça, je trouve aussi assez intéressant.
Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'humour dans justement les petites scénettes, des petits clins d'œil aussi aux lectrices.
Elles se font des blagues entre elles.
Ouais. Alors bon, la grosse critique, c'est au niveau du dessin. Les deux héroïnes, et d'ailleurs leurs copines aussi, sont toutes très minces, dans des corps... très normée.
Oui, c'est pas le problème qu'elle soit mince, c'est le problème qu'elle soit normée.
Oui.
Qu'on soit bien d'accord.
Oui, le problème, c'est pas d'être mince. Non, oui, c'est le problème que c'est toujours ces corps-là qu'on
voilà,
montre.
C'est une représentation assez normée des corps de femmes. Pour autant, on se faisait quand même la réflexion qu'elles avaient des petits seins, alors que souvent dans les représentations pornographiques des femmes, les femmes ont toujours des seins énormes qui dégoulinent.
Tout en étant mince, par
tout
ailleurs.
Tout en étant mince, oui. Pas facile.
Mais du coup, voilà, donc c'est vrai que là, moi, j'aimerais bien voir ce même genre de BD, peut-être avec donc un peu plus de bourrelet par-ci, par-là. C'est pareil, elles n'ont pas beaucoup de poils. Hein. Elles ont vite fait des poils sur le pubis.
De temps en temps,
un petit peu de poils sur le pubis, mais pas bien. Ça dépasse pas beaucoup de la culotte quand même. Hein. Et puis sous les bras, les jambes, rien du tout.
Mais bon, sinon le dessin est plutôt sympa. Enfin, moi, je m'y connais rien, pas vraiment en dessin de BD. Alors, je vais pas vous dire gna gna gna, la ligne et machin bidule.
Écoute, en tout cas,
voilà.
En tout cas, on est quand même, pour l'avoir un peu fait tourner chez les copines, là, il semblerait qu'il soit efficace. Hein.
Peut-être on a fait un petit sondage.
Et donc, un support érotique. Et donc pornographique, ouais. qui permet peut-être de changer un peu d'imaginaire et voilà, moi j'ai trouvé bien.
Bon, alors je crois qu'il date de déjà quelques années puisqu'il a commencé à apparaître aux États-Unis depuis 2001 en petit feuilleton et puis en fait il est paru cette année, je crois en janvier, chez La Musardine. Voilà.
Donc une maison d'édition spécialisée un peu dans...
Autour des questions de sexualité, qui fait des bouquins théoriques, mais aussi pas mal de nouvelles érotiques, des guides, des guides, des BD, pas mal de trucs, quoi.
Voilà, bah, du coup, j'imagine qu'on peut le trouver dans les bonnes librairies et sinon sur Internet, sur le site de la Musardine.
Exactement.
Voilà. Donc bon, bah, un support, j'imagine qu'il y en a d'autres. Si vous, vous avez d'autres, si vous connaissez des BD, des bouquins chouettes.
Des coups de cœur pornographiques.
Voilà, bah, nous, ça nous intéresse. Puis je pense que ça intéresse aussi nos auditeurs et les autres auditeurs et auditrices. Donc n'hésitez pas à nous rappeler la semaine prochaine, par exemple, puisque Calibre revient tous les jeudis de 20h à 21h.
Voilà, bah on va se quitter là. Ce soir, c'était Marty et Sylvie à la technique, Marina et Mélanie au micro. Vous pouvez réécouter cette émission ou toutes les autres depuis 2 ans et demi qu'on en fait sur calibre-cas-poivron.org. Oui, c'est ça. Non, j'ai oublié libre. cas-libre au pluriel. poivron.org et nous écrire à l'adresse calibre@poivron.org, c'est tout simple.
Voilà.
La réponse au quiz quand même. Ah, la oui. Réponse au quiz.
Bon, alors, personne n'aurait gagné. En quelle année cette foutue liste de maladies mentales, que d'ailleurs il y en aurait d'autres à enlever dedans, hein. Il faudrait peut-être même la supprimer, cette liste, mais en tout cas, l'homosexualité n'a été retirée de cette liste que en 1992. Donc, et nos techniciennes se regardent choquées.
Il y a 20 ans uniquement.
Voilà, donc jusqu'en 1992, c'était encore dans la liste. Je pense que c'était pas beaucoup appliqué en Occident, mais quand même, c'est la liste de l'Organisation Mondiale de la Santé, donc qui dicte, j'imagine, quand même certain rapport de la médecine à toutes ces questions sociales, hein, qui sont pas juste des questions de santé. On peut rappeler que la transsexualité fait toujours partie de la liste des maladies mentales. Donc ça, ce serait aussi quelque chose... il y a plein de gens qui... Enfin, des personnes qui militent contre ça, enfin, pour retirer ça de la liste. Voilà, donc l'homosexualité seulement en 1992.
Un petit agenda pour vraiment très rapidement.
Très rapidement.
Une soirée demain soir.
Voilà, pour nos auditeurs, auditrices grenobloises qui nous écoutent en direct ou qui nous écoutent avant demain soir, vendredi 9 mars, au local de Cigale. Donc Cigale, c'est le collectif d'associations gays et lesbiennes, LGBT, de Grenoble, qui se situe au 8 rue Sergent Bobillot. Donc à partir de 19h30, une fête organisée par les Cigales, l'entrée est pré-libre et cette fête, il y aura des petits spectacles, de la musique, de la bouffe et à boire, c'est pour fêter 4 heureuses victoires sur l'homophobie. Voilà, donc je sais pas, on n'en sait pas plus, peut-être en allant à cette fête.
Je crois que c'est des personnes qui étaient sans papiers et qui ont eu leur régularisation pour les histoires liées à leur homosexualité, je pense.
Voilà. Mais donc, en tout cas, ça vaut le coup d'aller soutenir ces associations-là et d'aller faire la fête dans le même temps. Donc vendredi 9 à partir de 19h30 au local de Cigale.
On se retrouve jeudi prochain à 20h pour une nouvelle émission.
Et bonne soirée.
Bonne soirée, bye bye.
Ciao.
Corps,
amour, sexualité.
Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.